RFI, 8h30 à Paris et à Yaoundé. Il est 7h30 en temps universel.
Nemo en piste.
C'est un procès qui s'enlise. 2 ans après l'enlèvement puis l'assassinat de Martinez Zogo au Cameroun, la justice n'a fait aucune avancée. Les vices de procédure s'accumulent alors que les proches de l'animateur radio s'impatientent, impuissants face à la lenteur judiciaire. C'est le seul changement majeur d'un léger remaniement orchestré par le général Brice Oligui Nguema au Gabon. Maïse Mouissi, ministre de l'économie, perd son poste. Très critique de l'ancien régime, il était rentré au pays pour relancer les affaires gabonaises. Une dizaine de jours après les sanctions contre le général Emeti, les États-Unis épinglent l'autre acteur principal de la guerre au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. De quoi confirmer la position américaine selon laquelle aucun des deux n'est apte à diriger un futur Soudan pacifique. Et puis le troisième jour, ce vendredi, de la visite de Faustin Archange Touadéra en Russie, le président centrafricain a rencontré hier Vladimir Poutine. Il a notamment salué l'aide apportée, je le cite, par de brefs guerriers russes à son pays. C'était le 17 janvier 2023 au Cameroun. Martinez Zogo disparaissait à Yaoundé. L'animateur radio s'apprêtait à rentrer chez lui avant d'être enlevé devant un poste de gendarmerie. 5 jours plus tard, son corps était retrouvé sans vie sur un terrain en périphérie de la capitale. Lui qui dénonçait toute forme de corruption dans son émission, qui invectivait également les puissants, sans jamais s'en prendre toutefois au président Paul Biya. 2 ans après, le procès de 17 accusés devant le tribunal militaire de Yaoundé semble patiner et s'enliser. Amélie Tullet.
Déjà 2 ans que nous tournons en rond, soupire l'avocat de Justin Danoué, ex-directeur des opérations de la DGRE, qui reconnaît l'implication de son service dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. 2 ans de prison sans être jugé, on est au-delà du délai raisonnable, ajoute maître Jacques Mbouni. Une quinzaine d'audiences et toujours pas de débat sur les faits. Avocat d'un autre accusé, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga, maître Charles Chungang déplore la multiplication des obstacles pour éviter d'aller au fond. De l'enquête au procès, la justice militaire camerounaise a cumulé les vices de procédure selon les avocats des prévenus, mais aussi de la famille. Résultat, un calendrier suspendu aux décisions attendues de la cour d'appel du centre. Pour maître Cyril Simplice Zoku, son client, l'ancien directeur général du renseignement, Léopold Maxime Eko-Eko, est victime d'une procédure visant à l'accuser faussement et n'a rien à voir avec la recherche de la vérité. Selon maître Calvin Job, qui représente des proches de Martinez Zogo, la lenteur de ce procès est la conséquence du profond malaise de la justice militaire autour d'une affaire au relent politique. Pour lui, seul un sursaut d'orgueil et d'indépendance des magistrats fera avancer les choses.
On vous en parlait déjà hier sur nos antennes. Le chef de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a procédé à un remaniement il y a 2 jours. Pas de changement majeur. Le Premier ministre Raymond Dongsima garde son poste. Les principaux ministres aussi, tous. Sauf un, celui de l'économie, Maïse Mouissi. Il était rentré au pays justement pour relancer l'économie avec très peu de succès. Donc, détail avec François Mazé.
Analyste brillant, critique virulent du régime Bongo, Maïs Mouissi est une figure d'ouverture pour la transition lorsqu'il rentre au Gabon prendre les rênes de l'économie en septembre 2023. 16 mois plus tard, le panorama est inquiétant. Le pays vit au-dessus de ses moyens, le déficit et la dette gonflent. La Banque mondiale vient de suspendre ses décaissements en raison d'arriérés non payés que le gouvernement a promis de solder au plus vite. Un économiste souligne les résultats décevants des levées de capitaux en 2024 et la crédibilité écornée du pays au sein de la CEMAC. Il n'avait pas pris la mesure de ce qu'il attendait de l'inertie du système, estime un observateur. Il a été victime de sa naïveté et de son arrogance. Il n'avait aucune expérience du fonctionnement de l'administration et a manqué d'humilité, tranche un parlementaire de la transition. Mais pour un autre acteur politique de premier plan, Maïs Mouissi paye surtout des décisions prises par d'autres. Les dépenses non financées, les achats d'aéronefs pour la présidence ne sont pas les choix du ministre de l'économie. C'est le plus fragile qu'on a jugé bon de sacrifier, juge-t-il. Pour autant, Maïs Mouissi n'est pas mis à l'écart. Il récupère le ministère de l'Environnement et du Climat, un poste également stratégique au Gabon.
Le Gabon, où la Banque mondiale a suspendu ses décaissements en raison d'arriérés de dettes, alors que la République démocratique du Congo, elle, est soutenue par une autre institution internationale, le FMI. Hier, son conseil d'administration a approuvé, et cela sans réserve, le programme économique et financier des autorités de Kinshasa. Objectif, stabiliser l'économie, améliorer la gouvernance, mais aussi renforcer la lutte contre le changement climatique. Un appui de près de 3 milliards de dollars sera ainsi accordé, réparti entre une facilité liberté élargie de crédit et un fonds pour la résilience et la durabilité. Le Fonds monétaire international qui appelle également à des réformes structurelles majeur. RFI Kinshasa, Patient Legaudy.
Le premier programme soutenu par la FEC, évalué à 1,8 milliard de dollars, vise à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer la gouvernance financière. Le FMI recommande à la RDC d'adopter une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Parmi les mesures prioritaires figurent la mise en place d'un compte unique du Trésor destiné à centraliser les fonds publics et le respect strict des procédures budgétaires standards. Les autorités congolaises sont également tenues de réduire leur dépendance aux revenus miniers en établissant un cadre budgétaire hors ressources extractives. Le second programme, financé par la FRD à hauteur de 1,1 milliard de dollars, soutiendra les efforts de la RDC pour atténuer les effets du changement climatique et protéger ces vastes forêts tropicales. Ce volet s'inscrit également dans la vision stratégique de Kinshasa pour devenir un acteur clé de la transition mondiale vers une économie verte. De son côté, le gouvernement congolais promet de poursuivre la mobilisation des recettes intérieures et d'améliorer la transparence dans la gestion des fonds publics. Le ministère des Finances, par exemple, s'engage à renforcer la discipline budgétaire, notamment par la modernisation de la chaîne de dépenses et la déconcentration des ordonnancements budgétaires. Patient Legaudy, Kinshasa, RFI.
Désormais plus de 21 mois de guerre au Soudan entre les camps des généraux Emeti, chef des paramilitaires, et Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée. Ce dernier, sanctionné hier par le Trésor américain, les États-Unis qui lui reprochent d'être un obstacle à la transition démocratique. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin.
Il s'agit en quelque sorte de joindre les actes à la parole. Le 7 janvier dernier, quand le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déterminé que les forces de soutien rapide, en guerre avec les forces armées soudanaises, s'étaient rendues coupables de génocide, il était bien spécifié que cela ne voulait pas dire que Washington soutenait un camp plutôt que l'autre. Ces sanctions contre le général al-Burhan viennent confirmer cette position. Le Trésor américain décide donc de geler les avoirs du chef de l'armée soudanaise. Selon le communiqué, ces sanctions financières montrent l'engagement américain pour la fin de ce conflit. Le pays continuera d'utiliser les outils à sa disposition pour arrêter le flux des armes vers le Soudan et pour tenir ses dirigeants responsables de leur mépris flagrant pour la vie des civils, est-il ajouté. Néanmoins, les deux camps ne sont pas totalement mis sur un pied d'égalité à Washington. Ils sont tous les deux accusés de crimes de guerre, mais en plus, les forces de soutien rapide sont accusées de crimes contre l'humanité et de génocide. Et depuis le début du conflit, l'interlocuteur privilégié de la diplomatie américaine est bien le général al-Burhan, représentant de l'État soudanais à l'étranger. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
J'ajoute que le ministère soudanais des Affaires étrangères a qualifié d'immorales ces sanctions américaines contre Abdel Fattah al-Burhan, estimant qu'elles, je cite, manquent des fondements les plus élémentaires de justice et de transparence. Troisième et dernier jour ce vendredi de la visite officielle de Faustin Archange Touadéra à Moscou. Le président centrafricain a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine hier. Très peu d'informations ont filtré de leur rencontre, si ce n'est les propos préliminaires dans lesquels le chef de l'État centrafricain a salué l'aide apportée par, je le cite, de braves guerriers russes à son pays, où la Russie avait dépêché des mercenaires présentés comme des instructeurs militaires. Anissa El-Jabri est à Moscou pour RFI.
À peine une petite table au Kremlin entre Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra, un des signes protocolaires classiques envoyés par la Russie pour souligner une proximité. Le président centrafricain a appelé le chef de l'État russe son très cher ami et dans la partie de son discours rendu public, il s'est félicité de la présence des forces russes dans son pays.
Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels et de braves guerriers.
Rien, en tout cas officiellement, sur une contrepartie sécuritaire dont on entend souvent parler depuis 2 ans, soit l'installation d'une base militaire russe dans le pays. En revanche, échange bien connu pour la présence des forces russes, Faustin Archange Touadéra a vanté les richesses naturelles de son pays.
La République centrafricaine regorge d'énormes ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Je me réjouis de la signature par nos ministres des Mines et de l'Agriculture des protocoles d'accord en vue de redynamiser notre coopération dans ces deux domaines.
Quelques heures auparavant, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, avait promis à Faustin Archange Touadéra que les législateurs feraient tout leur possible pour la mise en œuvre des accords. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI. RFI.
Fin de deuxième semaine au procès dit du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, celle qui l'a mené au pouvoir en France. Ces derniers jours, la Cour s'est penchée sur les voyages de l'intéressé, mais aussi de Claude Guéant et de Brice Hortefeux en Libye. C'était à l'automne 2005. C'est là, selon l'accusation, qu'aurait été noué le pacte de corruption présumé entre l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi et l'ancien président français. Ce jeudi, le tribunal s'est intéressé au déplacement de Claude Guéant, au cours duquel il a rencontré Abdallah Senoussi, le patron des renseignements libyens, condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le DC-10 d'Utah et sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et son sort juridique serait justement l'une des contreparties envisagées aux millions libyens. Et à la barre, c'est un Claude Guéant embarrassé qui est apparu. Laura Martel suit ce procès pour RFI.
1er octobre 2005, Claude Guéant est à Tripoli pour préparer la visite de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Les enjeux en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale étaient importants. La visite devait être une réussite, souligne l'octogénaire assis à la barre. Ziad Takieddine m'appelle et me dit « je vais vous faire rencontrer quelqu'un de très important ». Il ne vous en dit pas plus, vous ne posez pas de questions, s'étonne la présidente. Non, pas plus qu'il ne prévient l'ambassade. La présidente est sceptique. Le directeur de cabinet d'un ministre dans un pays comme la Libye qui part seul voir un inconnu sans prévenir personne. À l'époque, j'étais dans un climat de confiance avec Takieddine sans raison de soupçonner le traquenard dans lequel je suis tombée. Car ce n'est qu'au restaurant, selon lui, qu'il découvre qu'il dîne avec Abdallah Senoussi. Pourquoi ne part-il pas? Ma mission était de préparer le succès de la visite du ministre. Je ne pouvais pas faire d'esclandre, plaide Claude Guéant. Vous avez évoqué le financement de la campagne? Non, madame. Et la situation juridique de Senoussi? Là, il y a incertitude, hésite-t-il. Mécontent d'avoir été piégé, Claude Guéant n'en parlera toutefois à personne à son retour. Rien ne va, rien n'est logique. Comment un homme de votre expérience se retrouve seul dans cette situation et la gère comme vous le décrivez, cingle le procureur, sauf si le but était d'évoquer quelque chose qui ne pouvait se dire qu'entre Senoussi, Takieddine et vous.
Laura Martel qui continue de suivre ce procès pour Radio France Internationale. Tout de suite, vous retrouvez Julien Coquelroem.